lu
et approuvé.
Ce serait comme un mec qui lirait des livres à la radio et...
Ils ont des rondes. Bon, oui, de rappeler à nos chers auditeurs combien les oreilles sont évincées dès l'âge de 7 ans par une lecture individualisée et rendue silencieuse.
Arnache tes mots de créneau, ouais, DJ littéraire pour lecture collective.
Plus vous retrouvez seul face à vos livres, contactez.
Lu et approuvé, la bibliothèque sonore qui compte et raconte des histoires à vivre debout et dormir réveillé. Pas celle que quelques guignols nous racontent à longueur de journée, non. On n'en veut pas et on ne leur laissera pas le dernier mot.
Chaque semaine sur Canal Sud, nous vous lirons tout haut ce que les gens lisent tout bas.
Elles sont une quinzaine à casser des blocs de pierre dans une carrière au bord d'un fleuve africain et elles ont décidé ensemble de vendre le sac de gravier plus cher désormais. L'enjeu de cette lutte n'est pas seulement l'argent et sa faculté de transformer les rêves en projets. Et malgré des vies marquées par la pauvreté, la guerre, l'oppression au travail, les violences sexuelles et domestiques, les casseuses de cailloux découvrent la force collective et retrouvent l'espoir. Ce soir, nous continuons à vous lire « Photos de groupe au bord du fleuve » de Emmanuel Dongala.
Tu enlèves le panier que tu portes sur ta tête et le tiens par les hanches. Cela te permet de balancer plus amplement tes bras et de marcher ainsi plus vite. Tu as hâte d'arriver au chantier avant que les premiers véhicules d'acheteurs ne se présentent pour leur annoncer la décision que vous avez toute prise hier à l'unanimité. Tu as été choisi comme porte-parole et, même si tu n'as accepté cette fonction que contrainte et forcée, il ne faut pas décevoir celles qui ont placé leur confiance en toi. Dans un premier temps, quand tu avais appris par la radio que le gouvernement construisait un aéroport de classe internationale dans le nord du pays, cela t'avait laissé indifférente, comme beaucoup de nouvelles annoncées sur la radio nationale. Cette nouvelle concernant l'aéroport n'avait commencé à t'intéresser vraiment que le jour où tu avais appris que la construction de sa piste d'atterrissage et de ses bâtiments pharaoniques nécessitait une quantité colossale de pierres que l'usine de concassage ne pouvait couvrir, et qu'au vu de cette énorme demande, les entrepreneurs qui fournissaient au chantier de l'aéroport la pierre qu'ils vous achetaient en avaient doublé le prix de livraison auprès de leurs clients. Mais peu à peu, à force d'écouter les nouvelles à la radio, tu t'étais mise à te poser certaines questions. La radio t'apprenait tous les jours que le prix du pétrole montait, puis baissait, et montait encore plus qu'il n'avait baissé. Quand il montait ainsi, beaucoup d'argent tombait dans les caisses de l'État, gros producteurs de pétrole comme d'autres de diamants. Rien qu'en regardant le train de vie des hommes politiques et de leurs familles, tu savais que l'argent tombait sur le pays aussi généreusement que la pluie en saison humide. Or, pour toi, ton pétrole, c'était la pierre. Et tu n'étais pas une buse. Tu savais que 2 plus 2 faisait 4. Si l'argent pleuvait sur le pays, il n'y avait aucune raison que tu n'en collectes pas, toi aussi, quelques gouttes dans ton sac à main. Ce raisonnement simple t'avait tellement satisfaite que le lendemain, tu en avais parlé à une femme du chantier, juste pour bavarder, sans plus. Ce qu'elle entendit lui plut. Elle en parla à son tour à une autre. Celle-ci en parla à une autre encore, et ainsi de suite. Puis voilà qu'il y a 4 ou 5 jours, toutes les femmes du chantier s'étaient rassemblées de manière spontanée et avaient décidé de refuser désormais de vendre le sac de leur travail à 10 000 francs CFA et d'emporter le prix à 15 000. Elles t'avaient alors demandé unanimement d'être leur porte-parole, leur représentante auprès des acheteurs. Toutes voulaient que ce fût toi, car tu avais été longtemps à l'école. Tu savais lire, tu savais écrire et tu parlais bien le français. Les premiers camions arrivent en milieu d'après-midi pour acheter les sacs déjà remplis. Avant, ils n'achetaient qu'au mètre cube, et un mètre cube, c'est 10 sacs. Comme il fallait 3 semaines et demie à 4 semaines pour casser un mètre cube de gravier, beaucoup d'entre vous passaient des jours, voire des semaines, sans toucher un sou, parce qu'elles n'avaient pas les 10 sacs remplis. Mais depuis 15 jours, ces véhicules viennent presque quotidiennement et leur mandat en jette au sac, n'ayant plus la patience d'attendre le mètre cube. Depuis la demande boulimique de la pierre causée par la construction du nouvel aéroport, c'était le monde à l'envers. Ces acheteurs se querellaient pour un sac, chacun prétendant l'avoir réservé le premier. 2 en étaient même venus aux mains une fois. Cet incident vous avait fait saisir la férocité de la concurrence qu'ils se livraient devant l'appât du gain. Et vous avez fait comprendre l'importance qu'ils accordaient à vos sacs de pierre. Aujourd'hui, ils débarquent 4 à la fois des camions à benne basculante. Ils s'arrêtent dans la poussière ocre de grès pulvérulent. Les acheteurs descendent et s'avancent vers les sacs. Contrairement à l'habitude, aucune de vous ne se précipite. Ils sont surpris un instant par votre manque d'empressement, puis feignent de ne s'apercevoir de rien et commencent à faire leur cinéma de routine, aller vers les sacs, faisant semblant de les inspecter soigneusement, même si vous savez que, depuis une semaine, ils n'étaient plus aussi regardants. Mais voilà, aujourd'hui, vous n'êtes pas demandeuse. Bien au contraire. Comme leur cinéma vous laisse tout indifférente, un premier perd patience et s'approche de tes sacs. 1 semaine et demie de travail. Il les tâte du pied et, satisfait, il commence à ouvrir sa sacoche pour compter les billets. « Oh là !» tu lui dis, « pas si vite ! À partir d'aujourd'hui, le sac, c'est 20 000 francs !» Le gars croit que c'est une blague.
Bon, « écoute, bonne femme, me fais pas perdre mon temps !»
Il sort ses billets quand même et commence à compter. « Je ne rigole pas, j'ai dit 20 000 francs !» tu lui répètes.
« T'es folle ou quoi ? Qui t'achètera ton sac de cailloux à 20 000 francs ? Bien tant pis pour toi, t'as qu'à bouffer tes cailloux si tu veux »
conclut-il d'un air méprisant. Et il se dirige vers une autre. « Le nouveau prix, c'est 20 000 francs !» Tu entends une autre voix de femme s'élever à l'adresse de notre acheteur. Le même chiffre. Toujours le même chiffre. Répété par autant de voix de femmes. Enfin, ils comprennent que ce n'est pas de la rigolade. Ils commencent à vous prendre au sérieux. Ils ne savent quoi faire sur le coup, puis s'éloignent pour se concerter. Vous faites comme s'il n'existait pas et vous continuez à cogner le marteau contre les blocs de grès. Ils reviennent et vous narquent en tapotant leur sacoche pleine de billets. Parce qu'ils savent qu'ils ont l'argent et vous, pas. Ils vous menacent et vous signifient qu'ils iront désormais chercher la pierre ailleurs et qu'ils ne reviendront plus jamais dans votre chantier tant que vous n'aurez pas ramené le prix du sac à 10 000 francs, car...
Bonne femme, vous devez savoir qu'il n'y a pas que vous qui vendez la pierre, il y en a aussi ailleurs.
Enfin, ils repartent dans leur camion, claquent violemment les portières et démarrent en trombe. Après leur départ, toutes les femmes se lèvent et viennent t'entourer. Vous vous félicitez mutuellement et vous jurez de tenir jusqu'à ce qu'ils cèdent. Mais il faut reprendre le travail. Chacune retourne vers son tas de pierres et se remet à concasser. Curieusement, sans s'être concertées, toutes les femmes sont arrivées tôt ce matin. Elles se réunissent autour de toi, la porte-parole qu'elles ont choisie. Tu ne sais pas pourquoi, mais ta présence semble les réconforter. Comme pour se rassurer, elles réaffirment leur détermination à vendre le sac à 15 000 francs. Pardon, au premier prix de 20 000 francs. Tu n'as pas eu le courage de leur faire part des doutes qui t'avaient effleuré le matin quand tu écoutais la radio. Et tu les regardes s'éparpiller à travers le chantier, chacune devant son gros bloc à casser ou devant son petit tas de pierres concassées la vieille, gardant l'espoir de voir apparaître à tout moment les camions des entrepreneurs. Tu te lèves et vas auprès de ma Bilico. Et tu appelles toutes les autres. Elles viennent se regrouper autour de toi, un point d'interrogation dans leur regard. Tu vas droit au but et leur dis que tu commences à avoir des doutes sur votre stratégie, que peut-être ces gens ne bluffaient pas et qu'ils iraient chercher la pierre ailleurs, que vous risqueriez de manquer d'argent si vous ne vendiez pas pendant ces 3 ou 4 prochains jours, que vos enfants crèveraient de faim, et enfin qu'il n'était pas trop tard pour faire marche arrière, ramener l'augmentation à 12 000 francs par exemple, plutôt qu'à 15.
Écoutez, puisque nous sommes organisés maintenant, je propose que jusqu'à la fin de notre mouvement, nous partagions toute notre nourriture.
C'est Mama Moyalo qui parle.
Demain, que chacune apporte ce qu'elle peut. Des fruits, de la viande, du poisson, tout ce que l'estomac peut accepter et nous mangerons ensemble. Que celles qui n'ont rien trouvé ne se gênent pas. Elles peuvent apporter de l'eau à boire que nous partagerons toutes.
Les...
Oui,
les...
c'est une bonne idée.
Les...
Ouais, je suis à 100% d'accord.
Fusent de partout. Tu trouves toi aussi que l'idée est très bonne. Pour toi, la seule question qui trottinait dans ta tête était... Aujourd'hui sera-t-il un jour différent? C'est-à-dire le jour où ces acheteurs de pierres accepteront de discuter avec vous. Voilà les camions qui arrivent. Il est 11h. L'attente n'a pas été longue. Le bruit de leur moteur diesel, les fumées de gasoil, la poussière, les crissements des freins et des pneus, tout cela a failli vous faire sauter de joie. Vous êtes soulagés. Il vous avait dit qu'il ne reviendrait pas tant que vous n'auriez pas ramené vos prix à 10 000 francs. Et pourtant, ils sont là. Ils sont revenus. Ce qui montre qu'ils ne peuvent se passer de votre pierre. Mais il ne faut pas leur montrer votre soulagement. Vous continuez donc à taper sur votre pierre comme si ça arrivant n'avait aucune importance. D'habitude, les acheteurs allaient directement inspecter les sacs avec l'arrogance de ceux qui ont l'argent, se complaisant dans la manière dont vous vous pressiez autour d'eux, tels des poules dans un poulailler, s'égayant autour de celui qui leur jette des graines à picorer. Ils savaient que vous étiez prête à subir toutes les vexations pour toucher ces fameux 10 000 francs. Coup de gueule par-ci.
Hey, toi, là, ton sac, il est même pas plein. Tu me prends pour un idiot?
Ajoute
quelques cailloux pour bien le remplir si tu veux que je l'achète. Mais c'est quoi ça? T'appelles ça du gravier? Mais vas-y, pendant que tu y es, vends-moi carrément les gros blocs de grès que tu vois là-bas.
Coup de pied dans le sac, il renversait pour montrer à la vendeuse que ses cailloux n'étaient pas cassés assez petits. En général, les chargeurs qu'ils amenaient avec eux ne les suivaient qu'après l'achat des sacs. Aujourd'hui, curieusement, tous descendent de leur camion, feignant d'ignorer les sacs de cailloux et foncent vers nous. Les chauffeurs, les acheteurs, les chargeurs. L'un d'eux, qu'ils ont choisi comme porte-parole ou comme chef, chaussant des lunettes noires pour se protéger de l'éclat du soleil ou plus probablement pour vous impressionner, casquette américaine sur le crâne, dandinant sur ses jambes, se met à vous haranguer avec superbe. Il vous menace, vous dit qu'ils sont revenus pour vous donner une dernière chance, car il y a de la pierre ailleurs et que si jamais ils quittent ce chantier aujourd'hui, sans rien acheter, ils ne reviendront plus jamais. Point final. Vous daignez enfin relever la tête pour les regarder. Nous ne refusons pas de vendre. C'est toi qui réponds, car tu es celle qui est chargée de porter la parole des autres. Comprenez-nous. vous vendiez à 30 000 francs le sac que vous nous achetez à 10 000. Depuis que le président de la République a visité le chantier de cet aérodrome et que, furieux parce que les travaux avaient pris du retard, il a menacé de mettre tous les entrepreneurs en prison, vous en avez profité pour augmenter le prix du sac à 50 000 francs. 5 fois le prix que vous nous l'achetez. Mais nous aussi, nous voulons en profiter. Nous demandons 20 000 francs. Il vous restera encore 30 000 francs de bénéfices. Tu ne te lèves pas quand tu lui réponds. Tu restes assise sur ton siège, un gros roc ovale à la surface supérieure plane. Plus hautain que jamais, l'homme reprend la parole, ignorant ce que vous venez de dire.
Quand on est analphabète comme vous l'êtes, on parle pas de ce qu'on ne connaît pas, ok ? Vous pensez que vos sacs vont aller à pied jusqu'au chantier de l'aéroport ? Et les camions ? Savez-vous qu'en plus de l'essence, il faut vidanger un camion ? Graisser les essieux, charger la batterie, mettre de l'air dans les pneus, vérifier les patins des freins, nettoyer les vis patinées, et d'autres choses trop techniques pour que vous compreniez de toute façon. Savez-vous que tout cela coûte de l'argent ? Alors que vous, vous ne faites que vous asseoir sur vos culs et cogner ? Cogner ?
N'empêche que vous venez nous supplier de vous vendre nos cailloux. On ne vous les donnera pas pour moins de 20 000 francs. Tu étais un peu remonté. Bien parlé, présidente, approuvent les femmes.
Vous ignorez aussi qu'il y a un enjeu de politique très important. Vous savez pas que le président de la République tient à ce que ce chantier soit terminé avant la fête de l'indépendance, où il y aura des invités du monde entier ? Vous voulez faire honte à notre pays, c'est ça ? Vous voulez faire honte au président de la République ?
Justement, si vous ne voulez pas que le président ait honte, sortez 20 000 francs par sac. Vous aurez la pierre, le chantier sera fini à temps et le président sera content. Et il pourra faire la fiesta avec ses invités. Soudain, un cri strident, comme hurlé par un être mi-fou, mi-sauvage, déchire l'air. Vos regards se tournent à temps pour saisir le bandit Issou qui, comme une bête en furie, se lance sur l'un des chargeurs de camion. Le cri venait du tréfonds de son âme taciturne. Le chargeur de camion avait malencontreusement posé son pied sur un de ses sacs. Surpris, l'homme, catapulté loin du sac, mord la poussière. Tandis qu'au même moment, Issou s'abat sur lui comme une panthère et se met à le frapper en émettant d'étranges cris brefs et rauques. Deux hommes, dont celui aux lunettes noires et à la casquette américaine, voyant le spectacle, se ruent au secours de leurs camarades et se mettent à frapper Issou tout en tentant de le dégager. Il n'aurait pas dû. Le sang de Yamouyekeoutou n'a fait qu'un tour. Et saisissant l'homme aux lunettes collées, elle le soulève littéralement de terre et lui abat en plein visage son poing de briseuse de cailloux. Ses lunettes de star se brisent en deux et sonnées, il s'écroule. Ils sont moins d'une dizaine, vous, presque le double. Tout le chantier s'est transformé en champ de bataille. Il donne des coups de pied et de poing. Mais vous avez vos armes, les cailloux. Des pierres grosses et petites que vous lancez, qui les frappent au visage, au crâne, à la nuque, au front et aux tempes. Nombre d'entre eux se mettent à saigner. Égare à ceux qui tombent, car aussitôt, deux ou trois femmes s'abattent sur eux avec des griffes d'oiseaux de proie, visant particulièrement l'endroit masculin qui fait le plus mal, les testicules. Ils geignent, supplient, implorent et finissent par pleurer. Alors, c'est la débandade. Il faut voir ce spectacle d'une horde de femmes poursuivant un groupe d'hommes affolés, apeurés. Un chien vaincu fuit toujours la queue entre les jambes. C'est exactement de la même manière que s'enfuient ces hommes. Ils se précipitent vers leur camion sans demander le reste et démarrent sur les chapeaux de roue. Deux camions se tamponnent en faisant marche arrière en même temps, tandis qu'un troisième rate son virage et manque de peu à tomber dans le fossé avant de se retrouver sur la route. Puis, plus rien. La place est vide. C'est la joie. Une joie inattendue, accompagnée d'explosions de rire. Vous vous mettez tout à battre des mains, à danser. Il faut arrêter la danse, car c'est le moment de manger. Chacune avait apporté sa part de repas, comme vous l'aviez décidé hier. Tu les remercies de leur confiance. et leur dites que maintenant que ces gens ont la preuve de votre farouche détermination, ils reviendront certainement demain avec de nouvelles tactiques de négociation, car ils ont désespérément besoin de votre pierre. Vous devez donc toujours rester vigilante. Après avoir terminé votre repas, il vous faut vous concerter sur la stratégie du lendemain.
La pierre est notre pétrole.
Lance à ta grande surprise et joie, Batatou. C'était ce que tu ne cessais de te dire depuis longtemps. Tout le monde reprend gaiement le slogan en applaudissant. Vous ne vous attendiez pas du tout à ce que la riposte soit aussi rapide et brutale. Mis en déroute à 11 heures, ces acheteurs de pierre sont revenus en force moins de 2 heures plus tard, au moment même où vous apprêtiez à quitter le chantier. Seulement cette fois-ci, ils ne sont pas venus seuls, mais accompagnés d'un commando armé. Bien que surprise, tu n'es pas étonné outre mesure, puisque la plupart de ces camions appartenaient aux gros pontes du régime en place qui se cachaient derrière des parents anonymes pour faire des affaires souvent louches. Pour eux, mobiliser la police pour défendre leurs biens privés est tout à fait normal. Ce n'est pas une simple force de police qui débarque, mais une police militarisée. Pour tout dire, une véritable milice armée venue, semble-t-il, pour affronter une bande de dangereux malfrats. Ils sont une douzaine de policiers qui sautent immédiatement des cars grillagés avec casque, matraque, fusil et tout. Leur chef porte un pistolet à la ceinture. Il parade avec les insignes de son grade, mais ne connaissant rien au grade de l'armée, tu décides de lui donner celui de colonel. Il avance, accompagné de 3 ou 4 rescapés de la bataille du matin. L'un d'eux est l'homme aux lunettes noires, Mikao Parmuketu, une bande de gaz entourant sa tête comme un turban. Il n'y a pas à chercher, il est très en colère. D'autres portent des sparadraps collés ici et là, et tu en aperçois même un qui marche avec une béquille, faite d'un tronc de bambou. Il vous fiche vraiment la pétoche. Quelques femmes ramassent des cailloux qu'elles serrent dans leurs poings, prêtes à les lancer. Mais tu interviens immédiatement en leur demandant de les laisser tomber, car cette bande armée, dite force de l'ordre, ne cherche qu'un prétexte pour vous massacrer impunément. Tu prends ton courage à 2 mains, tu avances de quelques pas, puis tu t'arrêtes pour les laisser venir vers toi. C'est à eux de venir vers toi, car c'est ton territoire. Quand ils voient les autres se ranger derrière toi, le chef des soldats, le colonel, qui jusque-là ne savait pas à qui s'adresser, comprend immédiatement que tu es la chef, et te pointant du doigt, laisse éclater sa colère.
Je devrais vous coffrer toutes, bande d'idiotes. Pour coups et blessures volontaires sur des tiers. Agresser des commerçants qui ne veulent rien d'autre que acheter votre pierre, vous avez pas honte?
mais à aucun moment le chef de ces militaires armés ne veut savoir ni comprendre. Tu lui parles de vendre vos sacs de cailloux à 20 000 francs, lui se lance dans un discours complètement déconnecté de vos besoins, de vos souffrances, de votre réalité.
Bon allez, on réquisitionne ces sacs là. Vous viendrez faire payer au commissariat central de la police. Ordonne... 10 000 francs le sac, hein.
Et les soldats et les chargeurs d'avancer.
Voleurs ! Bouh ! Vas-y, voleurs, vous n'êtes pas des hommes !
Bouh ! Se mettent à hurler les femmes impuissantes devant cette force armée qui avance. Dès que le colonel a entendu ces insultes et ces ouh de mépris, il hurle.
Chargez !
C'est la curée. Coup de botte, de crosse sur des femmes désarmées. Vos cailloux se mettent à voler, mais il n'y a pas match. Vous réussissez quand même à en malmener un, et pour dégager leurs camarades en difficulté, ils se mettent à tirer. À balles réelles. C'est la débandade parmi vous. Tu fuis du côté du fleuve. D'autres fuient vers les gros blocs de grès pour s'offrir en rempart contre les balles. D'autres encore fuient vers les hautes herbes afin de s'y aplatir, s'y écraser hors de la vue de ces assassins. Mais celles qui n'arrivent pas à courir assez vite se font rattraper et tabasser. Enfin, au bout d'un moment, les voix humaines et le crépitement des armes se taisent complètement pour laisser la place au grondement lointain du fleuve qui se fracasse contre les rochers dans sa course vers l'océan et au bruit mat des sacs de pierre pleins ou à moitié vides que l'on balance en vrac dans les bennes des camions qui démarrent aussitôt toute la marchandise enlevée. Une à une, tes camarades de combat sortent de leur refuge. Qui, derrière des hautes herbes, qui, derrière son gros bloc de grès. D'autres, incapables de se lever, gisent par terre et gémissent. Tu comptes celles qui sont blessées. Batabou atteint une balle à la poitrine. Issou, le bras gauche fracturé. Heureusement pour elle, elle n'est pas gauchère comme toi. Laurentine Paca, le front ouvert par un coup de crosse. D'autres manquent à l'appel. Moukietou, Moyalo, Osolo, les soldats les ont embarqués. Quand tu débouches sur la grande avenue bitumée qui mène à la prison, il y a déjà près d'une cinquantaine de personnes qui y dirigent aussi. Un surprenant élan de solidarité. Beaucoup d'hommes parmi vous. Dans ce pays, le crépuscule ne dure qu'un instant. La nuit tombe très vite. Vous ne savez pas depuis combien de temps se poursuit ce raffut devant la prison. Toujours est-il qu'à la fin, un colonel de police sort. Pas celui qui vous avait tabassé au chantier avec ses hommes, mais un autre que vous ne connaissez pas. Il vous demande de rentrer calmement chez vous, car selon lui, on ne règle pas les affaires d'État la nuit. Ainsi donc, votre affaire était devenue une affaire d'État, pas moins. Tes compagnes te poussent en avant. En tant que porte-parole, tu prends la parole et tu lui réponds fermement que vous ne quitterez pas cet endroit sans vos trois camarades. Il se fâche en attendant cela et hurle que ce n'est pas à vous de lui dicter ce qu'il doit faire. Et que si dans 5 minutes vous n'avez pas dégagé, il vous fera vider à coups de matraque. Femmes, hommes, tous se mettent à le huer. Il sent qu'il ne maîtrise plus la situation et il va précipitamment en retraite en portant son talkie-walkie à la bouche. Probablement pour informer sa hiérarchie et demander des consignes. Vous redoublez alors vos cris et vos chants, cette fois accompagnés de sifflets et de la scie. Au bout d'une heure, à votre grande surprise et votre grande joie, c'est le maire de la ville lui-même qui arrive. Le maire se met donc à parler. Il regrette qu'il y ait eu des coups et des blessures, mais...
Il faut comprendre ces militaires, c'est bien connu. C'est dans leur nature même de ne pas faire dans la dentelle. Écoutez, nous sommes dans un état de droit, et dans un état de droit, il y a des heures légales pour libérer les gens. Compte tenu de cela, vos camarades ne sont libérés que demain.
Tout le monde se met à crier sur lui, dès qu'il a terminé sa criade. Non, non et non. Nous ne partirons pas sans nos camarades. Il n'y a pas d'autre solution que de faire un sitting dans la cour de ce commissariat de police. Vous alternez les chansons populaires avec celles que l'on chante lors des veillées mortuaires. Vous improvisez sur ces chansons, en créant de nouveaux refrains, se référant à votre lutte. Cependant, une petite inquiétude ne cesse de trottiner dans ta tête. Pourquoi, contrairement à leur réflexe, les autorités n'ont-elles pas encore envoyé les soldats pour vous rosser et disperser à coups de crosse et de matraque? Ce n'est pas normal. Quelque chose ne va pas. Dans cette atmosphère bon enfant, le bruit d'un véhicule vous interrompt brutalement. Une voiture de police. Vous paniquez et tu te dis que cette fois-ci, ça y est, voici le moment de l'affrontement inévitable avec les forces dites de l'ordre. Vous vous levez tous. De la voiture descend le colonel de police responsable de la prison, celui-là même qui avait menacé tout à l'heure de vous dégager à coups de matraque. Vous le regardez en silence lorsqu'il entre dans son bureau et les spéculations se mettent à aller bon train parmi vous. Soudain, sans crier gare, la porte de la prison ouvre ses deux grandes ailes de métal et vos trois camarades apparaissent. Pendant quelques nanosecondes, vous restez bouche bée, comme si vous aviez tous la berlue. Puis c'est un tonnerre d'applaudissements. Il est 1h30 du matin. Vous n'y croyez pas. Le colonel avait certainement dû recevoir un coup de fil de la présidence, car dans ce pays, tout remontait jusqu'au président de la République. En tant que porte-parole, tu prononces les derniers mots. Ne pas s'arrêter à cette première victoire. Le combat doit continuer. Demain, vous organiserez une grande marche sur ce même commissariat et vous allez y camper jusqu'à ce qu'il vous restitue vos sacs volés. Ces paroles sont accueillies par un tonnerre d'applaudissements. La ministre, assise à son bureau, t'accueille avec un grand sourire et désigne le sofa. Tu t'assieds.
Je suis la ministre de la condition féminine. Et s'il y a quelqu'un censé être au courant des problèmes quotidiens de la femme, c'est bien moi. Lorsque j'ai appris que des femmes avaient été bastonnées au bord du fleuve, j'ai tout naturellement voulu en savoir plus. Mes services m'ont indiqué que vous étiez la personne à voir. J'ai demandé à mon cabinet de vous contacter au plus vite pour arranger une rencontre. Dites-moi exactement ce qui s'est passé.
Est-ce menacer la République et le gouvernement que de vouloir vendre nos sacs de cailloux à 20 000 francs au lieu de 10 000 ? Nous avons déjà trop souffert, madame, et sur ce point, nous ne transigerons jamais. Elle reste un moment silencieuse après cette dernière phrase que tu as lancée avec passion.
Tirer sur des femmes qui ne faisaient que revendiquer un meilleur prix pour leurs marchandises est inadmissible. En tout cas pour moi. Mon rôle est de vous aider, mais avant tout, je veux voir clair dans cette histoire. Pouvez-vous me dire franchement s'il n'y a vraiment rien d'autre derrière cette revendication ?
Mais bien sûr, madame. Que voulez-vous qu'il y ait ?
Je veux tout simplement être sûre qu'il n'y a pas de manipulateur derrière.
Cette question te déçoit un peu de sa part, car elle montre que son cerveau fonctionne comme celui de tous les hommes et femmes qui ont une parcelle d'autorité, pour qui il ne peut exister de revendication spontanée. De notre côté, c'est une question légitime vu sa position. Vous pouvez en être sûr, tu réponds fermement. Elle ouvre un dossier et sort le tract du Rupa que tu avais lu dans le taxi d'Armando. Tu es tellement surprise que tu commences à paniquer.
Vous allez donc me dire que vous n'avez jamais vu ceci.
Son ton a changé. Sa voix est sèche et toute trace d'affabilité a disparu de son visage. Ce n'était donc qu'un vernis ? Mais si, madame, je l'ai même lu. Ils font ce qu'ils veulent et ça n'a rien à voir avec nous.
Ouais. Vous voulez me faire croire qu'une bande de femmes analphabètes, des petites tâcheronnes qui vivent à la petite semaine, ont pris l'initiative de monter une marche de protestation devant un commissariat de police, sans quelqu'un derrière tirant les ficelles.
Vos propos m'étonnent, madame. Comment pouvez-vous dire que vous militez pour les femmes si vous tenez des propos aussi méprisants à leur égard ?
Ce n'est pas du mépris. Je connais ma jante mieux que vous.
Cela t'agace très fort, et tu lâches sans te contrôler. Vous parlez comme les Blancs, qui disait « Je connais mes nègres ». Nous ne sommes pas vos négresses, madame.
Qu'est-ce que vous dites ? Vous croyez que je ne sais pas que c'est vous la meneuse ?
Je ne mène rien, madame. Tu dis d'une voix qui se voulait respectueuse.
Mais qu'est-ce qui vous a pris de pousser ces pauvres femmes aux mains nues à attaquer les forces de l'ordre ? C'est tellement stupide.
Tu ne sais ce qui te prend. Mais en un acte de fierté puérile, sans doute piqué au vif par le mot « stupide », tu dis « Nous n'étions pas mains nues. Nous avions nos cailloux. »
Et cela vous a mené à quoi ? Sinon une pauvre femme dans le coma.
Tu te tais. Tu commences à avoir l'impression que peut-être tu t'es mal expliqué, que peut-être que tes propos lui ont fait croire que c'est vous qui avez été agressés les premières, ces militaires et leurs chefs.
N'avez-vous pas menacé de marcher sur le commissariat ? Et qui sait, peut-être après sur le palais du président de la République lui-même. Vous voulez dire que mes sources mentent ? Et vous savez d'où je tiens mes sources.
Nous sommes des femmes qui réclamons un meilleur prix pour nos sacs de gravier.
Des femmes qui jettent des pierres. Des femmes qui lapident les forces de l'ordre.
Nous étions attaquées à coups de fusil, madame.
Parce que vous avez jeté la première pierre. Et vous êtes leur chef, n'est-ce pas ?
Je ne suis que leur porte-parole.
Manipulée ! Pourquoi avez-vous choisi ce moment précis pour lancer vos revendications ?
Parce que les circonstances s'y prêtaient.
C'est ça. Profiter de la réunion des premières dames d'Afrique pour foutre la pagaille.
Ce n'est pas vrai. Nous ne savions même pas qu'il y avait une réunion des premières dames d'Afrique. Nous ne réclamons que nos 20 000 francs.
On ne lance pas des femmes dans la rue pour 20 000 francs. Ne me prenez pas pour une idiote. Vous n'allez pas faire capoter cette conférence pour 20 000 francs et me faire couler avec.
Elle se tait un moment pour te regarder. Comme tu gardes un silence déférent, elle reprend d'une voix plus calme, conciliante même.
Écoutez, les caméras de télévision du monde entier regardent notre pays en ce moment. Cette réunion est très importante parce qu'elle célèbre le 10e anniversaire des rencontres des femmes de chefs d'État d'Afrique. Quoi de plus fâcheux que de voir étaler sur les écrans du monde entier une manifestation de femmes réprimées violemment en pleine rencontre de ces dames ? Si un tel cas se produisait, qui serait la première pointée du doigt ? Moi ! Moi et mon ministère ! On me traitera d'incapable ! Je ne vous demande qu'une chose, c'est d'arrêter votre mouvement immédiatement. Vous pourriez le reprendre après la réunion, quand les yeux du monde ne seront plus tournés vers nous. Et vous avez ma parole, je vous soutiendrai à fond, à 150% même. C'est important pour moi et pour le ministère. C'est presque une raison d'État.
20 000 francs, ce n'est peut-être rien pour vous. Mais pour beaucoup d'entre nous, cela peut faire la différence entre vivre et mourir, madame. Tu sens que le ton de ta voix est juste, calme, posé et respectueux. Cela a de l'effet sur elle, car elle te ressort son sourire de grande dame affable. Première chose, si vous pouvez faire qu'on nous rende nos sacs de pierre volés par la police.
Disons confisqués, car la police ne vole pas.
Deuxièmement, il faudrait punir ceux qui nous ont attaqués hier. Nous sommes dans un pays de droit ou pas? Ou alors, est-ce parce que nous sommes femmes que le droit ne s'applique pas à nous? Une de nos camarades est dans le coma. Qui va s'occuper de ce décès de Sorvelin si elle ne s'en sort pas? La facture de son hospitalisation s'élève déjà à 300 000 francs. Où trouvons-nous l'argent?
Je plaiderai pour que l'État prenne en charge ses frais. Mais je vous dis déjà que ce ne sera pas facile.
Agatha, pourquoi là? Agatha, la nana.
Tu reviens vers les autres. Tu leur dis qu'on vient de t'informer que la télévision sera là incessamment pour enregistrer votre déclaration. Il est donc temps de s'entendre sur ce qu'il faut dire et sur la personne qui va parler.
Mama Bilala, vous avez décidé de suspendre vos revendications à la demande de l'épouse du chef de l'État qui prend très à cœur les problèmes des femmes de notre pays. Je vous prie de faire votre déclaration en direct sur nos ondes.
Bilala, c'est mon nom. Je parle ici au nom de toutes les femmes qui cassent les cailloux au bord du fleuve. Voilà ce qui se passe. Les commerçants qui vendent à 30 000 francs les sacs de pierre qu'ils nous achètent à 10 000 les revendent maintenant à 50 000. Ils font un bénéfice de 40 000 francs. À notre tour, nous voulons vendre nos sacs à 20 000 francs. Mais voilà, cela pose problème à ces commerçants. Nous ne savons pas pourquoi. À cause de cette revendication, ils ont envoyé la police armée dans notre lieu de travail au bord du fleuve. Sans raison. Elle nous a tabassés, blessés, emprisonnés. L'une d'entre nous, blessée par balle, est en ce moment dans le coma. Ce matin, la ministre des Femmes nous a reçus et a promis de nous aider. Nous la remercions du fond de notre cœur. Mais après, la ministre, Mama, la présidente, a convoqué notre porte-parole. À la fin de l'entretien, elle lui a donné de l'argent et lui a ordonné de faire cesser immédiatement nos revendications. Nous nous sommes réunis et voilà ce que nous avons décidé. Mama présidente, nous acceptons cet argent.
Elle soulève la grosse enveloppe et l'agite devant la caméra.
Merci beaucoup. Mais cet argent sera tout entier réservé aux soins de notre camarade Batatou qui est dans le coma entre vie et mort et à ses deux enfants. Cependant, nous maintenons absolument nos deux revendications, car nous ne demandons pas la charité. Nous continuerons à protester, jusqu'à ce que 1. On nous restitue nos sacs volés, et 2. On nous achète désormais nos sacs de gravier à 20 000 francs. Si nos sacs volés ne nous sont pas rendus ce soir, nous marcherons demain sur le commissariat de police. C'est tout ce que nous avons à dire.
Le téléphone. Tu sursautes. Tu émerges tant bien que mal de tes pensées glauques et sors l'appareil de ta poche. Tu ne reconnais pas le numéro qui s'affiche sur son écran.
Mériana Rangy ?
Une voix féminine qui semble familière mais que tu n'arrives pas à identifier.
C'est moi, la ministre qui vous a reçue il y a 2 jours.
Oh, mais bien sûr, quelle surprise ! Surprise, tu l'es. D'habitude, un ministre n'appelle jamais directement. Il passe par une secrétaire. Cette femme ne fait vraiment pas les choses comme les autres.
J'ai une très bonne nouvelle pour vous et pour vos collègues, Madame Rangy. Nous sortons d'une réunion extraordinaire du comité d'organisation de la conférence des Premières Dames d'Afrique, présidée, comme vous le savez, par la femme du président de la République elle-même. Mon point de vue a prévalu et il a été décidé que toutes vos revendications seront satisfaites.
Pardon ? Vous dites ?
Que tout ce que vous avez demandé vous a été accordé. Vous pourrez désormais vendre vos sacs de pierre à 20 000 francs. Quant aux sacs perdus, ça aurait été trop compliqué et surtout ça demanderait trop de temps pour vérifier qui avait combien de sacs. J'ai fait une proposition qui a été acceptée, celle de payer à toutes la valeur de 5 sacs à 20 000 francs chacun. Je trouve que c'est un bon compromis.
C'est vraiment une très bonne nouvelle, madame. J'ai hâte de l'annoncer à mes camarades. Mais qu'est-ce qui nous garantit qu'on ne reviendra pas sur cette décision ?
Moi, évidemment. Je ne suis pas du genre à revenir sur ces décisions. Et la femme du président de la République, bien sûr, Maniamine, est généreuse, malgré le fait que vous ayez refusé la proposition qu'elle vous a faite et que vous ayez pris son désir de vous aider pour une tentative de corruption.
Et le ministre de l'Intérieur ? Nous n'avons pas confiance en lui. C'est lui qui a donné l'ordre de nous tirer dessus.
Ne vous inquiétez pas. Le procès-verbal de la réunion a été signé par la femme du président dans son rôle de présidente de la conférence et contresigné par le ministre de l'Intérieur présent à la réunion, et moi-même. C'est irrévocable. J'ai oublié de vous le dire, mais il va certainement vous contacter pour confirmer ce que je viens de vous dire. Attendez-vous donc à recevoir un coup de fil de lui ou de ses services. Cependant, j'ai tenu à être la première à vous l'annoncer parce que vous savez combien je me suis investie dans ce dossier et combien je me suis battue pour le faire aboutir.
Tu es silencieuse pendant quelques instants. Prenant ce silence comme une réticence à la croire, elle continue.
L'enjeu de cette 10e réunion de la conférence des premières dames d'Afrique est très important pour l'image de notre pays et de son chef. Il ne faudrait absolument pas que quelque chose, surtout pas une manifestation de femmes jetant des pierres, vienne perturber la cérémonie d'ouverture qui aura lieu demain soir avec spectacle et dîner de gala. Alors tout doit aller très vite. Vous aurez votre argent dans la matinée, bien avant l'ouverture officielle de la conférence.
Je vous remercie du fond de mon cœur, madame. Vous aviez dit que vous alliez nous aider. Vous avez tenu parole.
Je n'ai fait que mon travail, et le travail que m'a confié le président de la République.
Je vais annoncer la bonne nouvelle aux autres, dès qu'elles seront toutes là. Ce sera vraiment la joie. Merci encore.
Je vais vous dire quelque chose, madame Ranger.
Oui ?
Vous êtes une femme coriace. Vous avez forcé mon admiration et j'ai de l'estime pour vous.
Merci, madame, tu dis, à la fois surprise et confuse.
Grâce à vos revendications, vous avez redonné de l'importance au ministère de la femme. J'avoue que vous avez beaucoup de courage.
Tu penses que c'est la fin de la conversation et qu'elle va raccrocher ? Mais non, elle continue.
Cela ne vous intéresserait pas de venir travailler avec moi au ministère ? Quelqu'un comme vous serait très utile dans mon cabinet.
Qu'a-t-elle dit ? Toi ? Passer de casseuse de cailloux à membre d'un cabinet ministériel ? Une blague ? Une autre forme de corruption déguisée ? Ou bien c'est la femme de pouvoir qui pense vraiment que tu pourras lui être utile ? Quand on ne sait pas que répondre à une question, qu'il faut répondre tout de même, il faut botter en touche. Je ne sais pas, madame. Votre hôte est si inattendu. Je vais y réfléchir. Pour le moment, je m'occupe de nos revendications.
Je comprends. Quand tout cela sera terminé, rappelez-moi, j'y tiens vraiment. Si vous ne le faites pas, c'est moi qui vous rappellerai. Au revoir et bonne chance.
Au revoir, madame, et merci. Bien avant la réunion avec tes camarades du chantier, la nouvelle de votre victoire était déjà connue de toutes. Maintenant que vous êtes réunis au fond de la parcelle, à l'écart de la foule et du bruit de la veillée, tu leur rapportes exactement ce que t'a annoncé la ministre. Une victoire sans condition. En fait, vous avez obtenu plus que ce que vous espériez. Vous pensiez vendre vos sacs de pierre à 15 000 francs plutôt qu'à 10 000. Vous avez obtenu de les vendre à 20 000 francs, le double. Aucune d'entre vous n'avait plus de 3 sacs confisqués par la police. Personnellement, tu n'en avais que 2. Mais voilà qu'on vous en paie 5 au prix fort. Cela ne te gêne pas du tout, car ce n'est que justice. Il fallait bien compenser les 2 jours de travail que vous aviez perdus. À la fin de ton compte rendu, tout applaudissent vigoureusement et chaleureusement. Vous êtes fiers de votre victoire. non pas tant d'avoir obtenu ce que vous vouliez, mais surtout de la manière dont vous l'avez obtenu. Bien sûr, cela n'a pas été un grand combat contre comme l'oppression des femmes, une de ces batailles épiques pour changer le monde qu'affectionnait ta sœur Tamara. Non, ce n'était qu'une petite lutte égoïste afin d'obtenir plus d'argent pour vos sacs de pierre. Mais même si ça n'a pas été la prise de la Bastille, vous avez mis vos vies en jeu. Vous avez été battu, emprisonné, blessé par balle. Vous avez perdu une vie. Cela compte. Tu regardes Issou, tu regardes Moyalo et Moukietou, tu regardes Anne-Marie, Osolo et Laurentine Paca, tu regardes Bilala. Toutes ces femmes auront demain un minimum de 100 000 francs entre les mains. Dans ce dur métier de casseuse de pierre qu'elles font, elles n'ont jamais rêvé de voir autant d'argent d'un seul coup. Elles savent désormais que dans ce monde, tout n'est pas perdu d'avance et qu'il y a des combats que l'on peut gagner. Leurs vies vont changer, la tienne aussi.
Lu et approuvé. Bibliothèque sonore.
Et voilà, c'est la fin de cette émission. Lu et approuvé, c'est donc chaque mercredi soir à 23h30 sur Canal Sud, donc 92.2 en région toulousaine et www.canalsud.net. On salue tous les auditeurs et auditrices et les saintes pasanois qui sont à l'antenne, qui nous écoutent. Salut à vous.
Bonsoir.
Ce soir, nous vous avons lu donc Photo de groupe au bord du fleuve, un roman donc paru aux éditions Babel de Emmanuel Dongala. Et on vous l'avait lu aussi un petit bout la semaine dernière, donc voilà, c'est en deux fois qu'on a ouvert ce livre. Et donc, bien, si vous voulez nous contacter, vous pouvez le faire, lu et approuvé, sans accent, tout en minuscules, tout attaché, @guyad.org, gwiad.org. Le blog de notre émission, c'est luetapprouvé.noblogs.org. Vous pouvez vous y rendre, vous pourrez y trouver les podcasts, les références des lectures et des musiques quand on peut, quand on les a. Et tout un tas de choses. Le site de Canal Sud également, www.canalsud.net. Et puis bah, voilà, je crois qu'on a tout dit. Un mot à rajouter peut-être ? Pas forcément.
Non, c'est bon.
Ok. Eh bien, merci à vous. Bonne soirée à toutes et à tous. Et à la semaine prochaine sur Canal Sud.
Salut.
Qu'est-ce qu'un livre si nous ne l'ouvrons pas ? Un simple cube de papier et de cuir avec des feuilles. Mais si nous le lisons, il se passe quelque chose d'étrange. Je crois qu'il change à chaque fois.
A better world, a better world, a better world, a better world.